sujet avant, après Jésus-Christ, c'est notre thème de l'année. Vous savez, d'habitude, souvent, on fait un thème de l'année. Et après ça, on divise ça en des petites mini-séries. Cette année, à date, on n'a pas commencé une mini-série. On est toujours resté accroché à avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, le thème. Et pour le vrai, on n'est pas capable de décrocher parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la différence avant Jésus et après Jésus, sur la différence sans Jésus et avec Jésus. Et que ce soit au niveau de la foi, de l'Église, du peuple de Dieu, ça fait tellement la différence quand on se rend compte, quand on réalise, quand on vit la présence de Jésus dans notre vie par rapport à vivre la même chose, mais sans Jésus. Alors, je pense que toute la vie chrétienne, tout le plan de Dieu est centré là-dessus. En fait, tout le plan de Dieu qui a préparé pendant 4000 ans avant que Jésus arrive était dans le but que Jésus vienne et qu'il vienne changer tout au complet hein, dans nos vies. Ouvrir la mer, comme disait Louis-René tantôt. Amen. Jésus a changé le calendrier, la façon de penser, le savoir, la compréhension, la façon de vivre, les priorités, la façon d'être en relation avec lui, la façon d'être en relation les uns avec les autres aussi, le respect qu'on a les uns pour les autres. Il détruit les barrières sociales, générationnelles, culturelles. Il redonne à la femme son statut d'égal à l'homme. Il change tout. Il rend les vieillards importants, alors que les vieillards comme moi perdent leur importance avec le temps. Merci. Il rend aux handicapés, aux déficients intellectuels, à ceux qui sont rejetés de la société, il leur redonne une dignité. Jésus change tout. Hein? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas décrocher de ce terme-là, Jésus, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ce matin, je veux vous parler du peuple de Dieu, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Hein? Je vais avoir un autre message éventuellement sur les religions. J'ai à cœur de parler de la différence. Pourquoi tout le monde qui rencontre Jésus lâche la religion? Et c'est intéressant de faire cette étude-là, de voir qu'est-ce que les religions vivent pour être accrochés à leur religion, mais pourquoi quand ils rencontrent Jésus, ils n'ont plus le goût de religion. Amen. Ça va venir plus tard. Mais là, je voulais vraiment me centrer sur le peuple de Dieu après Jésus-Christ. En fait, le peuple de Dieu après Jésus-Christ, c'est quoi en réalité? Ben, c'est l'Église après Jésus-Christ. Hein? Parce que lorsque Jésus est venu, parmi son peuple, il a fondé son Église. Et là, son peuple s'est mis à se diviser entre ceux qui le suivaient et ceux qui le rejetaient. Et c'est devenu, le peuple de Dieu est devenu l'Église, finalement. On pourrait dire plein de choses sur l'Église. On pourrait parler que c'est le corps de Christ, que c'est universel sur toute la terre, que c'est le seul groupe, organisme ou communauté dans le monde qui est habité de l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein. Mais ce matin, je veux parler de l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est, ça, le mot d'Église vient de Ecclésia, c'est ceux qui sont mis à part pour Dieu. Les gens que Dieu a mis à part pour faire son œuvre sur la terre. Les gens que Dieu a mis à part pour s'impliquer et se mettre à travailler pour le Seigneur pour le reste de leur vie, jusqu'à temps que Jésus revienne ou jusqu'à temps qu'on ait notre promotion et qu'on aille au ciel. C'est de ça que j'ai à cœur de parler. Donc, j'ai à cœur de parler de chacun de vous, chacun de nous, OK? L'importance que vous avez pour que Dieu puisse atteindre son but. Et aussi l'effet néfaste qu'on glisse vers ce que les autres groupes, les autres communautés vivent et qui n'est pas de Dieu. Okay? C'est-à-dire, on peut vivre une foi chrétienne, on peut vivre dans l'Église d'une façon qui n'est pas selon le plan de Dieu. Et c'est ça que j'avais à cœur d'apporter aujourd'hui. Et ça, c'est Qu'est-ce qui fait la différence? C'est vraiment Jésus-Christ et son esprit. Dans toutes les religions du monde, y compris l'Église, okay, qui glisse vers la religion, la manière que c'est formé, les différentes communautés, les différentes religions, c'est qu'il y a une élite. Il y a un clergé. Il y a des prêtres. Il y a des intermédiaires. Il y a des leaders, OK, qui bâtissent la religion. Et il y a les membres, ceux qui assistent, ceux qui suivent les leaders, ceux qui obéissent à leurs lois en public, pas toujours quand ils sont cachés, ceux qui financent les organisations, ceux qui croient les leaders du mieux qu'ils peuvent pour faire ce qu'ils disent de faire. Donc, les membres des grosses religions sans Dieu, mettons qu'on parle du bouddhisme, qui est 500 millions sur la planète, c'est quand même du monde, ou de l'hindouisme, 1,2 milliard sur la planète, eux autres, ils vont suivre les doctrines de leur chef, les pratiques, les rituels que leur chef dise de faire. Et ils vont espérer, bien entendu, aux promesses que leur chef leur dise. Hein? Ça, c'est les religions qui n'ont pas un seul Dieu. Et il y a des religions monothéistes, qu'on appelle, qui ont un seul Dieu. La plus grande sur la Terre, c'est le christianisme, mais la seconde plus grande, c'est l'islam. Qui ont aussi des chefs religieux. Okay? L'islam a ses chefs. Et il enseigne au peuple à se conformer aux lois du Coran. Et il interprète le Coran, et les gens croient ce que leur chef leur dit. Hein? Et l'implication principale du peuple, ben, c'est de suivre les rituels que leur chef leur a enseignés et d'obéir aux lois et d'espérer aux promesses que leur chef leur dise. Et c'est la même chose pour les plus petites religions, pour les plus petits mouvements, monothéistes ou non. Mais aujourd'hui, ce que je veux parler le plus, c'est du vrai peuple de Dieu. Pourquoi je dis le vrai peuple de Dieu? Bien, c'est le peuple qui adore le vrai Dieu. Okay? Le Dieu qui est venu, qui est plein de compassion, qui est venu mourir pour nous autres, pour nos péchés, à notre place, dans le but qu'on puisse, nous, vivre, recevoir la vie éternelle et avoir la vie de Dieu dans nos veines. Okay? Donc, je veux parler de ce Dieu-là, de ce peuple-là, du vrai Dieu. Et le peuple qui, son peuple, et quand on parle du peuple de Dieu, c'est ceux qui le connaissent et c'est aussi ceux qui sont en cheminement pour le connaître, ceux qui n'ont pas encore rencontré l'Esprit-Saint. Que l'Esprit-Saint ne vit pas encore en eux parce qu'ils n'ont pas su ou ils n'ont pas osé l'inviter pour qu'ils vivent en dedans d'eux. Okay? Donc, le peuple de Dieu. Avant Jésus-Christ, Dieu avait un peuple. Le vrai Dieu avait un peuple. Et ce vrai Dieu-là qui avait un vrai peuple, il a voulu faire, comme toutes les religions qui existaient sur la terre, il a voulu faire d'un groupe de gens qui croiraient en lui, son peuple. Et la manière que notre Dieu a commencé, c'est en créant une religion avec son peuple. Et je fais un petit peu la différence entre ce que le peuple juif vivait et ce qu'on vit lorsqu'on a la nouvelle naissance. Donc oui, c'était une religion. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chefs. Hein? Ça a commencé par Moïse. Moïse, le seul qui rentrait en contact avec Dieu à ce moment-là, qui est monté sur le mont Sinaï, qui a reçu les instructions, la loi, et aussi plein d'autres lois, comment construire le tabernacle dans lequel Dieu irait rencontrer éventuellement après sa mort les gens qui lui succéderaient pour leur parler. Donc, le peuple juif avait des chefs, okay, en commençant par Moïse, et il essayait du mieux qu'il pouvait de suivre les instructions, la loi que ce chef-là leur disait qu'il fallait suivre, et de vivre conformément aux valeurs de ce du Dieu de Moïse, OK? Parce que lorsque Moïse n'était plus là, il ne savait pas de quel Dieu trop Moïse parlait, fait qu'ils se sont fait un veau d'or. Mais quand Moïse est revenu, ils ont dit, OK, on va suivre le Dieu de Moïse. Mais ils ne le connaissaient pas personnellement. En fait, il y a juste Moïse qu'ils connaissaient personnellement. Alors, le peuple juif faisait comme les autres religions. La seule différence, c'est que leur loi était écrite par Dieu lui-même. Donc, toute la loi juive était basée sur la vérité, parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait inspirée. Donc, c'est ça qui était la différence avec toutes les autres. Mais ils suivaient quand même des chefs, OK, sans avoir eux-mêmes de relation avec Dieu. Donc, parmi tout le peuple juif qui avait à ce moment-là 12 tribus, c'était les descendants des 12 enfants de Jacob, OK, avec des petites nuances. 12 tribus qui faisaient partie de son peuple, que lorsque Dieu a ouvert la mer, ils ont sorti, ils ont été libérés d'Égypte. 12 tribus qui ont vu des miracles, qui ont été nourris par la manne venant du ciel, et ils ont vu toutes sortes de miracles, de l'eau sortir d'un rocher et plein d'autres choses qui s'est passé dans leur temps. Mais de ces 12 tribus-là qui appartenaient à Dieu, Dieu en a choisi un, okay? La tribu de Lévi. Et on va aller dans Nombre, ceux qui ont leur Bible, Nombre 8, chapitre 5 à 10. Elle dit, l'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. » Donc, prends une des 12 tribus, les Lévites, les descendants de Lévi, purifie-les. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute l'assemblée des Israélites. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront leurs mains sur eux. » Et ça continue, ça dit, « Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel. » Aaron, pour se mettre dans le contexte, c'était le frère de Moïse. Donc, Moïse était celui qui était en contact avec Dieu, mais son frère suivait ce que Moïse, comme le reste du peuple, disait. Et Dieu avait choisi Aaron pour quelque chose de particulier, on va le voir plus tard. Mais eux faisaient partie de cette tribu des Lévites. Donc, Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel comme une offrande des Israélites et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Le rôle particulier de la tribu des Lévites, 1/12 finalement de la population du peuple de Dieu, était de servir Dieu. Les autres, ils vaquaient à leurs occupations, mais eux servaient Dieu directement au temple, OK? Le temple, c'était le lieu de rencontre. Donc, tout ce qui concernait la connexion entre l'homme et Dieu, c'est les Lévites qui étaient en charge de ça. Donc, ils s'arrangeaient pour tout mettre les ustensiles qu'il fallait et de faire tous les rituels qu'il fallait pour que l'homme puisse être en contact avec Dieu. Et c'est Dieu qui avait demandé ça. Ça vient tout de Dieu, ça. Ça dit, tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande à l'Éternel. Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'était l'endroit où Dieu parlait aux hommes. OK? Donc, tout ce qui concerne la religion avec Dieu, la parole, l'enseignement, la louange, l'application de la loi, chicaner ceux qui ne faisaient pas les bonnes affaires, les ramener, aider le peuple à marcher droit, il était responsable de tout ça. Donc, tout ce qui concerne aussi la présence de Dieu, il était responsable d'organiser tout. Les autres, non. Qu'est-ce qu'ils faisaient les autres pendant ce temps-là? Ils obéissaient aux lois pour commencer, OK? Quand ça allait bien, là. Il y a eu des bouts qui obéissaient pas, mais là, quand ça allait bien, ils obéissaient aux lois. Ils recevaient l'enseignement. Et eux autres, bien, ils défrichaient la terre. Ils développaient toutes sortes de métiers au service les uns des autres et au service aussi des Lévites. Et ils amenaient de l'argent au temple, parce que les Lévites, eux autres, ne travaillaient pas, ils cultivaient pas la terre. Donc, leur seul moyen de subsistance, c'était l'argent, la dîme que tout le peuple leur donnait pour qu'ils puissent manger, qu'ils puissent vivre pendant qu'ils servaient Dieu. Ils participaient aux guerres lorsqu'il y avait des guerres pour défendre le peuple. Ils remerciaient Dieu quand ça allait bien. Ils chiolaient quand ça allait mal. Okay? Ils se reproduisaient, faisaient grandir le peuple de Dieu. Ils enseignaient, comme Moïse leur avait dit, à leurs enfants, la loi que les Lévites leur enseignaient. Ils se rendaient compte que les Lévites avaient raison à chaque fois qu'ils faisaient ce qu'ils disaient. Ils n'avaient pas de contact avec Dieu direct, mais chaque fois qu'ils suivaient la loi de Moïse, ils se rendaient compte que leur vie allait mieux. C'est de cette façon-là qu'ils étaient encouragés à continuer de suivre. Ils ont été témoins, bien entendu, d'un paquet de miracles. En présence de Moïse, ça aidait de dire que Moïse doit être crédible. Mettons, si la mer s'ouvre, si le fleuve Saint-Laurent s'ouvre devant moi puis vous me suivez, bien, vous allez dire peut-être que Luc il a du bon sens. Okay? Et il profitait de tout ce que Dieu donne dans sa création, le soleil, la pluie et tout ça. Donc, 11 tribus qui vivaient leur vie selon la loi et une qui servait Dieu plus directement dans le temple. Petite parenthèse, le temple, le lieu de rencontre, n'existe plus aujourd'hui. Qui est le temple? C'est l'Église, hein? C'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, c'est là le lieu de rencontre. OK? C'est important de comprendre ça. C'est pas le cerf-blanc, le lieu de rencontre. C'est les gens qui viennent au cerf-blanc. Lorsque vous venez à l'Église le dimanche matin, OK? C'est pas le cerf-blanc, l'Église. Vous venez au rassemblement des croyants. C'est ça, l'Église. Et parce que vous êtes au milieu du rassemblement des croyants, bien, vous êtes dans l'Église. Si vous êtes tout seul dans Baptiste ici, vous n'êtes pas à l'Église. Mais si vous êtes au milieu du peuple, vous êtes dans l'Église et vous bénéficiez de toutes les bénédictions que Dieu a préparées et pourvoit depuis des siècles à ceux qui se rassemblent en son nom. Amen. Donc, les Lévites sont au service de Dieu. Un douzième de la population. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sous-groupe dans les Lévites. Plus petit, beaucoup plus petit. Un petit échantillon de toutes les Lévites qu'il y avait. Okay? Je ne sais pas en chiffres, là, mais ce n'est pas grand-chose. Ce sous-groupe-là était encore plus près de la présence de Dieu. Okay? C'était les seuls qui avaient le droit de rentrer dans le lieu très saint et vraiment rencontrer Dieu et vraiment y parler. D'être en conversation avec Dieu, c'était ceux qui pouvaient. De recevoir ses instructions et les transmettre aux autres. C'est ceux qui ont imposé les mains aux Lévites et les ont présentés à Dieu, comme on vient de lire. Donc, c'est un groupe qui avait une plus grande proximité avec Dieu et aussi une plus grande responsabilité. Si on lit dans Nombre 18, okay, versets 1 à 3, « L'Éternel dit à Aaron, « C'est toi et tes fils, ainsi que ta famille, qui supporterez les conséquences des fautes commises envers le sanctuaire. C'est toi et tes fils qui supporterez les conséquences des fautes commises lorsque vous remplirez la fonction de prêtre. Fais aussi approcher de toi tes frères de la tribu de Lévi, la tribu de ton enceinte, afin qu'ils te soient attachés et te servent. Lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage, ils seront à ton service et à celui de la tente. En revanche, ils ne s'approcheront pas ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel. Sinon, vous mourriez, eux, avec vous. » Donc, un tout petit sous-groupe qui sont les descendants de Aaron, qui était un de la tribu de Lévi, juste ses enfants et sa descendance avaient le droit de rentrer en contact avec Dieu. Les autres Lévites étaient à leur service pour arranger le temple, pour le transporter, tout faire tout ça. Mais les seuls qui pouvaient être en contact avec Dieu, c'était Aaron et sa descendance. Une nouvelle séparation. Séparés en 12 tribus, on prend une tribu, on la met à part, les Lévites, et on prend un échantillon de ça, les enfants d'Aaron, les prêtres. C'est eux qui étaient les prêtres. Prêtre, ça veut dire intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les prêtres, c'est des intermédiaires. C'était la famille d'Aaron qui l'était. Donc, eux se purifiaient et faisaient tous les rituels pour pouvoir rentrer en présence de Dieu et ne pas mourir. Okay? Parce que si tu étais en présence de Dieu, sans t'être purifié, tu mourrais. En plus, il y avait une immense responsabilité. Si les Lévites ou le peuple ne faisaient pas les bonnes choses, c'est eux autres qui étaient responsables. Si les choses n'allaient pas comme Dieu le demandait, ils en portaient la responsabilité. C'est rough, ça, hein? Mais Dieu pensait tout. Heureusement, il y avait les moyens de se faire pardonner. Et même, il y avait les moyens de faire que Dieu pardonne au peuple. Et c'était une série de rituels que Dieu avait prévus. Et il disait, si vous faites ça, et souvent ça passait par le sacrifice d'animaux, alors vous serez pardonné. Et le peuple sera pardonné. Et non pas juste les Lévites, mais tout le peuple d'Israël. Si vous faites ça comme intermédiaire, parce que vous êtes prêtres, vous êtes les intermédiaires entre moi et tout le reste de mon peuple, si vous faites ça, eux vont être pardonnés. C'est quand même une grosse responsabilité, n'est-ce pas? Un peu plus loin, on voit une autre responsabilité que je verrais plutôt comme un privilège. Ça dit, « Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui se trouve derrière le voile. C'est le service que vous effectuerez. C'est en pur don que je vous accorde à la fonction de prêtre. L'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. » Prêtre, intermédiaire. Le voile, les seuls qui ont accès à l'autre bord du voile. L'autre bord du voile, c'est quoi? La présence de Dieu. C'est là que Dieu parle, c'est là que Dieu agit, c'est là que Dieu se manifeste. Et Dieu dit, c'est un pur don que je vous donne. Même si ça vient avec une grosse responsabilité, c'est un cadeau que je vous fais, que vous soyez prêtre. Donc, trois groupes dans le peuple d'Israël. Le peuple, les Lévites et le petit sous-groupe des prêtres. Là, on est dans l'Église avant Jésus-Christ, dans le peuple de Dieu avant Jésus-Christ. Et il y avait un clergé, c'était les Lévites. Et par le choix, parce que Dieu parle aux prêtres seulement, qui eux parlent aux Lévites et qui eux parlent au reste du peuple, okay? Ce petit sous-groupe-là avait tous les avantages de la présence de Dieu. Le reste du peuple s'y écoutait, il y avait tous les avantages de la conséquence d'être le peuple du vrai Dieu. Amen. Donc, un clergé à temps plein, en charge d'une connexion entre Dieu et les hommes, qui enseigne Dieu, qui enseigne ses valeurs. Une élite dans le clergé, qui sont les enfants de Pharaon, okay, qui entrait directement en contact avec Dieu pour l'entendre, lui demander pardon pour le peuple, transmettre les instructions du Très-Haut, porter la responsabilité de tout ce qui se passe dans le monde à cause d'un accès privilégié auprès de Dieu et à cause d'outils que Dieu leur a donnés pour réparer, pour guérir, pour délivrer, pour garder le contact avec Dieu, pour permettre à Dieu de faire avancer son œuvre sur la terre. Dieu voulait ça. Dieu a préparé ça. Pourquoi Dieu fonctionnait comme ça? Il n'y avait pas le choix dans ce temps-là. Dieu a souvent appelé son peuple, « Vous êtes un peuple à la nuque raide. Vous êtes un peuple rigide, que j'ai de la misère à faire comprendre que je voudrais être en relation avec eux. » Donc, Dieu avait créé tout ce système religieux-là pour pouvoir préparer un peuple à quelque chose de plus grand, qui était éventuellement le plan du salut, la venue de Jésus. Est-ce que Dieu a toujours fonctionné par la religion? C'est intéressant de voir dans ses premières interactions avec l'humanité, dans l'Ancien Testament, avant Moïse, Dieu avec qui il y avait une relation, il n'y avait pas de religion. Si on fait juste penser à Noé, Lorsque Dieu est en relation avec Noé, il y avait juste une relation avec Noé. Et lorsqu'il a voulu sauver Noé, bien, il a donné ses instructions, puis Noé a fait ce qu'il fallait. Et pas juste Noé, mais ses fils aussi ont participé. Donc, Dieu est en relation avec Noé et sa famille, et il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de guerrier. Tout le monde écoutait ce que Dieu leur avait dit, et ça marchait. En fait, ça les empêchait d'être noyés. Fait que c'est quand même pas pire. Ça dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, reproduisez-vous et devenez nombreux, remplissez la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance. On voit ici que c'est pas juste avec Noé, mais c'est avec Noé et ses fils que Dieu avait cette relation-là. Et il n'y avait pas besoin de clergé, il n'y avait pas besoin d'organisation compliquée, il n'y avait pas besoin de rituel, il y avait juste une relation. Amen. Mais lorsque le peuple était rendu à 2 millions, qui s'était éloigné de lui et que Dieu a voulu les ramener à lui, il a formé cette religion-là avec une loi pour les préparer à le recevoir. Donc, dans ce peuple-là qui avait une religion, bien, il y avait juste un groupe qui servait Dieu directement et un sous-groupe qui était en contact avec Dieu. Maintenant, nous sommes l'Église après Jésus-Christ, n'est-ce pas? De quel groupe pensez-vous qu'on fait partie? Est-ce qu'on fait partie des Israélites qui vaguent à leurs occupations personnelles et qui, de temps en temps, suivent les rituels de Dieu? Parce que tout le peuple d'Israël, les 12 tribus, allaient à la synagogue puis faisaient les rituels qu'il faut. Okay? Est-ce qu'on fait partie des Lévites qui s'occupe de servir l'Église, OK? Où on fait partie de la descendance d'Aaron, qui rentrait en la présence de Dieu, mais pas juste ça, avec toutes les responsabilités que je vous ai mentionnées tantôt. Quel des trois qu'on est?
Le troisième.
Qui, les pasteurs? Hey, ça répond pas. Les pasteurs? Non, pas les pasteurs. Tout le monde, les pasteurs aussi, mais pas plus. Okay? Pas plus que les autres. Ça, c'est dur à comprendre. On glisse tellement souvent, facilement dans un clergé. On est toujours en train, depuis 2000 ans, de reglisser dans un clergé. Mais c'est pas ça que Dieu a créé. C'est pas ça que Jésus a créé. Il a créé un peuple de prêtres. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce que Pierre dit. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, du plus petit au plus grand, parmi le peuple de Dieu, les chrétiens, ceux qui vivent une relation avec Dieu, donc ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus, Jésus est venu vivre en eux, parce qu'il attend toujours l'invitation. Si parfois il y en a ici qui n'ont jamais fait l'invitation, ça change la vie, là. OK? Et si vous avez peur aux responsabilités que je vous ai dit, là, le bien qu'il nous fait est là par rapport aux responsabilités. Fait que si vous avez jamais fait ça, ouvrez votre cœur et dites-lui, Jésus, viens dans ma vie. Je veux être de ton peuple. Viens régner sur moi. C'est juste ça. Dieu, Jésus attend juste l'invitation et si vous lui faites, c'est sûr qu'il va rentrer. 100 000 à l'heure. Amen. Donc, du plus vieux au plus grand. Peu importe la culture, peu importe le statut social, la langue, peu importe de quelle religion vous venez, peu importe depuis combien de temps vous êtes sauvé, que ce soit hier ou que ça fasse 30 ans, 40 ans, peu importe votre rôle dans l'Église ou votre titre qu'on vous donne, peu importe, vous êtes tous de façon égale de la lignée de Aaron. Nous avons tous accès à Dieu. Nous pouvons tous être en sa présence sans mourir. Nous pouvons tous l'entendre. Nous pouvons tous lui apporter des sacrifices de louange, de reconnaissance. Nous pouvons tous lui demander pardon, pas juste pour nous-mêmes, mais même pour les autres et même pour les autres dans le monde. Même lui demander pardon pour les plus méchants de ce monde. On a ce pouvoir-là. Okay? Ça, on appelle ça l'intercession. Les dimanches qu'on fait de l'intercession, c'est ce qu'on veut. C'est le rôle qu'on veut prendre parce que Dieu nous l'a donné. Nous sommes des prêtres. Nous sommes l'intermédiaire entre le monde et Dieu. Donc, on a le monde, la seule chance qu'ils ont, là, c'est qu'on intercède pour eux autres. Donc, il faut le faire. Non seulement nous avons tous ces privilèges-là, mais nous sommes aussi appelés à servir. Donc, l'Église après Jésus-Christ, c'est une communauté de prêtres lévites que vous êtes, que nous sommes, appelés à servir Dieu, à servir l'Église. L'Église, c'est le temple des pierres vivantes. OK? Bien entendu, on peut servir aussi, lorsqu'il y a des corvées et tout ça, pour aider notre lieu de rassemblement. OK? Mais quand on sert l'Église, c'est les gens de l'Église qu'on sert. Et même quand on lave les toilettes, on est en train de servir les gens de l'Église. On ne sert pas les toilettes, on sert l'Église. OK? Donc, servir Dieu, servir l'Église, servir le monde en intercédant pour lui et en lui apportant la vérité, en étant le reflet de Jésus-Christ pour le monde. Nous sommes tous ça. OK? Nous sommes appelés à être des prêtres lévites. Quel pourcentage de notre vie? Quand on a le temps? Temps plein, hein? Nous sommes appelés toujours à temps plein à servir Dieu. C'est ça notre appel. Peut-être que vous dites, hey, ça n'a pas d'allure. C'est correct. Prenez le temps d'y penser. Mais la vérité, c'est qu'on est appelé à servir Dieu comme prêtre en tout temps dans notre vie. Ça veut-tu dire qu'il faut lâcher nos jobs? Non, parce qu'à ma job, il faut que je serve Dieu. Dans mes loisirs, il faut que je serve Dieu. Dans mon église, il faut que je serve Dieu. Dans ma vie familiale, il faut que je cherche Dieu. Je suis appelé en tout temps à être ce prêtre lévite. Lorsque vous avez accepté Jésus, lorsque vous avez ouvert votre cœur à Jésus-Christ, vous avez reçu ce mandat-là. Vous avez reçu le salut aussi. Vous avez l'éternité. Personne ne pourra vous l'enlever. Personne ne pourra vous séparer d'amour de Christ. Vous allez vivre l'éternité dans un bonheur éternel. Mais vous avez reçu en même temps le mandat prêtre lévite. Et on a une responsabilité pendant qu'on est sur la terre de jouer notre rôle, d'être notre rôle, parce que c'est ce qu'on est. Amen. On glisse toujours vers le clergé. Et souvent, on regarde des gens qui sont rémunérés par l'Église ou rémunérés par des gens qui leur font des dons pour être à temps plein pour le Seigneur. Mais ça n'a aucun rapport à la responsabilité de prêtre lévite. Ces personnes-là qui sont payées à temps plein ne sont pas plus prêtres lévites que vous autres. Ils ont juste un rôle différent. T'sais? Vous, vous êtes appelés à refléter Christ à votre emploi, okay? À avoir une rémunération pour vivre et le reste pour être généreux et donner à l'œuvre de Dieu ou aux pauvres. OK? Mais peu importe notre rôle, okay, c'est nécessaire que des gens soient à temps plein dans certaines tâches que le Seigneur leur donne, mais ne sont pas plus prêtres lévites que vous l'êtes. Parce que dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'Église après Jésus-Christ, il n'y a pas de clergé. On a toute la même responsabilité devant Dieu. Nous sommes prêtres lévites appelés à servir à temps plein, premièrement dans notre relation avec Dieu. Lorsqu'on développe notre relation avec Dieu, on est en train de jouer le rôle de prêtre. Dans notre couple, dans notre famille, certainement dans notre église locale. Même si je travaille à temps plein, je sers quand même dans mon église locale. OK? Et dans ce monde, partout où Dieu nous place. Amen. Tous les modèles d'église qu'on voit où il y a un clergé et des gens qui assistent, où il y a une division entre le clergé et les gens qui assistent, ce n'est pas l'église que Jésus veut. Ce n'est pas l'église pour laquelle Jésus est mort sur la croix. L'église pour laquelle il est mort n'a que des serviteurs parmi son peuple, des gens à son service, car il a besoin que tous les talents que lui a déposés dans chacun pour établir son règne sur la terre soient à l'œuvre. Et c'est ce qu'on voit souvent dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, 4 à 7, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Dieu a déposé dans chacun de vous des dons différents que non seulement l'Église a besoin, mais le monde a besoin. Et Dieu a besoin pour faire avancer son œuvre. Imaginez-vous que vous décidez demain matin de grayer votre atelier de tous les outils inimaginables, électriques, pas électriques, toutes, OK, pour pouvoir faire plein de bricolage. J'aimerais ça. Mais que finalement, vous touchez jamais à vos outils. Vos outils ne servent à rien. Ils sont là, ils dorment, mais c'est beau. Là. Quand tu reçois de la visite, tu fais visiter tes amis, puis ils trouvent ça beau. Là. Mais tu ne t'en sers pas. Dieu, il nous a établis pour se servir de nous autres. Je pense qu'il n'aime pas ça de la manière que je le dis, Dieu, en ce moment. Là. Mais c'est pour à peu près illustrer une image. Dieu, il aime mieux avoir une relation avec nous, nous aimer, nous dire qu'il nous chérit de tout son cœur, qu'il nous aime plus que la prunelle de ses yeux, il aime mieux nous dire ça. Mais la réalité, c'est qu'il s'attend à ce qu'on participe à son œuvre. Et il sait très bien que si on participe à son œuvre, notre joie, elle va être bien plus grande. On va être plus heureux en tant qu'être humain. Et quand on va arriver dans son royaume, on va être rassasié des œuvres qu'on a accomplies. On va être rassasié lorsqu'on va mettre le pied de l'autre bord. Amen. Dieu sait que c'est juste bon pour nous autres qu'on participe. Donc, Dieu, il s'attend à ça, à ce qu'on le fasse. L'Église a commencé comme ça, au départ. Tout du monde en feu pour Dieu et que leur vie ne servait qu'à servir Dieu. OK? La première Église, les premiers chrétiens, là, c'était effervescent. Peu à peu, il s'est créé un clergé. Des gens plus connaissants, des gens moins connaissants, et les plus connaissants commençaient à dire aux moins connaissants qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ça, c'est pas malsain, parce que c'est toujours normal que dans n'importe quel groupe, il y a des gens qui s'instruisent plus que d'autres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes dons. OK? Mais le problème, c'est lorsqu'il se crée une distance. Et que là, il commence à avoir, pour le clergé, un esprit de contrôle, et pour le reste de l'assemblée, une passivité. Alors, eux autres, ils font un job, moi, je vais vivre ma vie. Et là, tu te mets à t'intéresser à toutes sortes de choses qui sont pas vraiment, que Dieu te demande pas vraiment de faire. Mais peu à peu, ça prend de la place dans ta vie, et finalement, tu fais juste ça. Et tu dis, le clergé fait le reste, c'est pas grave, ma conscience est correcte, Okay, les prêtres s'occupent de faire ce qu'ils ont à faire. Okay, ils prennent soin de l'église locale, puis tout, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire ma petite job, je vais donner ma dîme, puis je vais aller à l'église le dimanche, puis je suis correct. Ça, c'est pas l'église après Jésus-Christ. Ça, c'est une religion, c'est un clergé. Okay? Il y a une division entre les deux. Et qu'est-ce qui arrive dans cette forme de clergé-là? Bien, le cœur du clergé s'endurcit ou s'enorgueillit. Il se pense plus haut que les autres. Et l'Assemblée, elle devient désabusée à longue. Parce que pour le vrai, là, quand on ne sert pas Dieu, notre foi se refroidit. Puis à un moment donné, on se demande, ah, c'est plate l'Église. Finalement, c'est plate la chrétienne. Finalement, c'est-tu vraiment de Dieu? Si c'était de Dieu, ça serait le fun. Mais le problème, c'est juste qu'on est passif. Puis quand on est passif, notre foi s'éteint. Peu à peu. Parce qu'elle est nourrie, notre foi, par nos actions pour Dieu. Peu importe, pas juste ici, mais dans ce qu'on fait, quand on le sert, quand on parle de lui, quand on sert les pauvres, quand on fait des choses pour Dieu, notre foi est nourrie. Du moment qu'on arrête de faire ça, elle se refroidit, elle s'endort, puis elle s'éteint tranquillement. Amen. Et ça, peu à peu, on commence à s'intéresser plus à une bâtisse qu'au peuple de Dieu. Et on s'en vient même à appeler la bâtisse l'Église, alors que l'Église, c'est les gens. Okay? Et la foi meurt. On devient une religion traditionnelle, même si on s'appelle une religion chrétienne. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire, se répéter, s'arrêter, s'arrêter. On pense souvent, « Ah oui, mais ça, c'est... » une religion qui a été comme ça. Nous autres, on n'est pas comme ça. C'est partout, chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les protestants, chez les évangéliques, la tendance à glisser vers la religion, vers le clergé et le clergé actif et l'assemblée passive, le clergé contrôlant et l'assemblée qui finit par se pousser parce que c'est plate. C'est toujours ce qui s'est passé. Jusqu'à temps que l'Esprit-Saint, à un moment donné, fait... souffle son esprit, puis là, whoop, il y a un réveil. Là, il y a du monde qui deviennent, souvent du monde qui allait plus à l'église, là, qui deviennent réveillés, qui ont un feu pour Dieu, qui se mettent à vouloir servir Dieu, faire de leur vie un service à Dieu. Et finalement, ça se finit par se rééteindre. Pas obligé de s'éteindre. On n'est pas obligé d'être dans ce cercle-là constamment. Tout ce qu'on a à être, c'est être ce qu'on est supposé d'être. Des prêtres, lévites, au service de Dieu pour le reste de notre jour, à temps plein. Et ce feu-là va se réallumer. Ce feu-là va être contagieux autour de nous. La joie va nous remplir. Le désir de participer à l'Église, même si c'est boiteuse, même si c'est des hommes qui caronnent puis que finalement, c'est pas toujours... optimal, mais peu importe, pourvu que je sers Dieu, je suis heureux, je suis bien. Quand on rentre dans notre vrai rôle, le feu revient, la joie revient, la paix revient. Amen. Ceci dit, lorsqu'on fait des choses pour Dieu, est-ce qu'on le fait toujours pour Dieu? On peut se poser cette question-là. Et c'est important de se la poser. On peut faire, il y a des personnes qui font des choses pour Dieu, mais qu'à un moment donné, ils se rendent compte, des années après, jamais, j'ai-tu vraiment servi Dieu? Il me semble que ce que j'ai fait n'a pas servi à rien. Et tu te rends compte qu'à un moment donné, ce que tu pensais que tu faisais était utile, mais finalement, c'est pas pantoute dans le plan de Dieu. Moi, je vous donne un truc. Quand vous faites quelque chose, posez-vous la question, ça fait-tu partie de la mission que Dieu a pour moi? Ou peut-être plus simplement, parce qu'on se pose tout le temps la question, c'est quoi ma place? Non. Est-ce que ça fait partie de la mission que Dieu a? Tout simplement. Et j'avais à cœur ce matin de ramener, lorsqu'on a fondé l'Église il y a 10 ans, la vision qu'on avait et la mission qu'on avait. La vision et mission de l'Église, c'est de connaître Dieu, c'est de faire connaître Dieu, c'est de parfaire nos relations les uns avec les autres, parce que tous reconnaissons que nous sommes ses disciples à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et Jésus dit même, ils vont savoir que tu m'as envoyé, Père, s'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Donc, travailler à ça, la communion fraternelle. Prendre soin de son prochain, à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur, et refléter Jésus pour le monde. Si vous faites quelque chose qui rentre dans une de ces catégories-là, vous êtes correct. Ça veut pas dire nécessairement que vous avez entendu l'appel exact de Dieu pour nous. Ça, c'est un cheminement de toute la vie. Seigneur, je suis à la bonne place. OK? Peut-être que tu voudrais que je fasse d'autres choses. Je suis tout le temps en train de me demander ça. C'est correct. On peut se le demander pour être à la bonne place et Dieu va nous le dire. Alors, Dieu peut nous mettre dans différentes catégories dépendamment ce qu'il veut qu'on fasse, les dons qu'il a déposés en nous et tout ça. Mais demandons-nous, quand on travaille pour le Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ça? Dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, est-ce que ça sert à une de ces choses-là, ce que je suis en train de faire? Lorsque je suis à ma job, je la fais-tu en bougonnant puis en étant jamais content? Ou je vis ma job pour refléter Jésus pour le monde? Pour servir quelqu'un, pour prendre soin de quelqu'un. OK? Donc, c'est important de toujours se rappeler c'est quoi notre mission. Donc, lorsqu'on parle de s'impliquer, c'est simplement participer à la mission. Tout simplement, participer à la mission de Jésus. Est-ce que je joue mon rôle de prêtre lévite dans l'Église? Est-ce que je participe à la mission de l'Église? Est-ce que je participe à sa mission de Jésus? Si votre réponse est non, OK, et vous ne savez pas comment commencer, ben venez nous voir, on va vous montrer des façons de commencer. En fait, quand on n'a jamais servi Dieu, on se demande par où je commence. Ben, une bonne place à commencer, c'est dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est un lieu de formation. C'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de guérison, OK? Donc, c'est une bonne place à commencer. Et tranquillement, on apprend à ce que notre vie soit un service à Dieu partout où on est, partout où Dieu nous envoie. Et plus on le fait, plus notre flamme grandit, plus notre zèle grandit. Je désirais conclure aujourd'hui, OK, en parlant de quelque chose qui, trop longtemps, a séparé l'Assemblée du clergé. Et on parle des ministères. Le mot ministère veut dire service. Ça ne veut pas dire haut placé. OK? Donc, quand tu fais du service, tu fais du ministère. Amen. Et j'avais à cœur d'apporter un passage. On aurait pu en amener plein d'autres, mais juste pour vous illustrer un peu ce que je veux dire. Pour vous illustrer qu'il n'y a pas de différence entre le clergé et l'Assemblée. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas, le clergé, dans l'Église après Jésus-Christ. Amen. Dans Éphésiens 4, 11 à 12, en parlant de Jésus, il dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » Souvent, on a dit, ça prend dans l'Église, ça prend un pasteur, ça prend un berger, ça prend un évangéliste, ça prend un enseignant, ça prend un apôtre. Puis là, on vient de former un clergé. C'est pas ça que ça veut dire. Dieu veut que ces ministères-là fassent partie de leur Église. Et vous avez tous, vous, prêtres lévites de l'Éternel, un peu de ces ministères-là. Vous avez toutes un esprit d'apôtre, OK, qui se développe pour faire avancer l'œuvre de Dieu, OK, pour défricher la terre dans le monde afin que la lumière de Christ puisse y pénétrer. On a tout ça dans nous autres. Bien entendu, on a tout cet esprit de prophète qui nous permet d'entendre Dieu. On l'a tous. On a tous le désir, même si on ne le fait pas parce qu'on a peur, que les autres connaissent Dieu. Donc, l'esprit d'évangéliste est en nous. On est toutes des personnes qui aiment prendre soin des autres. Okay? Des fois, c'est plus de monde. Des fois, c'est juste un petit groupe. Mais ça fait partie de nous autres. on a tous le goût d'enseigner ce qu'on sait et de le partager aux autres. Et à différents niveaux, selon les dons que Dieu a mis en nous, on en développe certains plus que d'autres. Et quand on parle de ministère ou de personnes qui auraient un ministère de prophète, d'évangéliste, d'enseignant, de pasteur dans une église, ça veut juste dire que c'est des personnes qui ont peut-être sont peut-être plus avancées dans ces domaines-là, dans leur croissance dans ces différents ministères-là. Ils ont peut-être plus pratiqué ces ministères-là et ils sont là pour enseigner, pour découvrir. « Hey, toi, t'es vraiment évangéliste, tu ne savais pas? » Mais non, je ne savais pas. Hein? Parce que ces personnes-là, ils sont capables de discerner, mais ne sont pas plus hauts que l'autre. On est tous des prêtres lévites, mais ils ont quelque chose à apporter, à vous apporter, à cause de leur connaissance, à cause de leur expérience de vie, tout simplement. Et ça va être des outils dans les mains de Dieu pour faire grandir. Le prophète va faire grandir les prophètes, l'évangéliste va faire grandir les évangélistes, mais jamais en étant plus haut. Parce que autant eux ont quelque chose à vous apporter, autant vous, vous avez quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Et dans ce sens-là, on est tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de clergé dans l'Église après Jésus-Christ. Paul disait, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous font-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous les interprètent-ils? On ne peut pas être toutes. On ne peut pas être toutes. On est des êtres humains. Mais il y a une chose certaine qu'on est tous. Nous sommes tous missionnaires. Ça, nous sommes tous missionnaires. Okay? On peut être des autres affaires à différents niveaux selon les dons que Dieu nous a donnés, mais on est tous en mission, à temps plein, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. La mission qu'il nous a donnée, c'est d'être les intermédiaires entre lui et le reste du monde. Et de bâtir avec lui son royaume, afin que son royaume se répande sur toute la terre. C'est ça le rôle qu'il nous a donné. J'avais à cœur qu'on prenne la communion avec cet esprit-là. Un esprit d'engagement à être qui on est, parce qu'on est déjà ça. Mais de le vivre dans nos vies. Amen.